Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Je comprends l'inquiétude, voire la lassitude, mais nous traversons un moment inédit de notre histoire, un moment appelé à durer encore plusieurs mois.
Après les annonces, le mode d'emploi. Jean Castex précise les contours des mesures annoncées hier par Emmanuel Macron.
Et notamment du fameux couvre-feu qui sera instauré à partir de samedi dans 9 métropoles.
Le Premier ministre annonce également des restrictions pour les autres régions qui se croyaient épargnées.
Le gouvernement qui sort de nouveau le chéquier pour aider tous ceux qui sont pénalisés par ces nouvelles restrictions. Élargissement du fonds de solidarité et prêt garanti par l'État. Accessible jusqu'au 30 juin.
Hasard du calendrier, plusieurs perquisitions ont été menées aujourd'hui, notamment chez Olivier Véran, dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise.
Michel Fournier et son ex-épouse conduits aujourd'hui sur les lieux de la disparition de la petite Estelle Mouzin en Seine-et-Marne.
Et puis votre SUV pèse plus de 8 tonnes, alors vous allez payer un malus. La Bourse de Paris a terminé ce soir en net recul de 2,11% à 4837 points.
La tendance météo avec
Anissa. J'ai dit 8 tonnes,
bonsoir.
C'était 1 tonne 8, bien
oui,
sûr.
Oui, je me disais, ça fait beaucoup.
Non, 8 tonnes, c'est pas
beaucoup.
Possible.
La tendance météo avec Anissa. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Ça y est, enfin des bonnes nouvelles.
Oui.
C'est la dernière journée demain avec du gris.
Oui, sur la moitié est, effectivement. Le ciel est encore couvert demain avec des averses. Ailleurs, le soleil revient. Il fait toujours aussi froid demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et au lendemain de l'annonce choc par Emmanuel Macron de l'instauration de couvre-feu nocturne dans 9 métropoles à partir de samedi, le Premier ministre a donc précisé tout à l'heure les contours de ces mesures.
Oui, et en particulier les modalités des fameux couvre-feux.
À 21h, chacun devra donc être chez soi et ce jusqu'à 6h du matin. Tous les lieux recevant du public seront fermés. Des règles qui doivent s'appliquer avec bon sens, a dit le Premier ministre. Ça veut dire qu'il y aura quand même des exceptions, Hélène Derzian.
Oui, d'abord pour raison de santé. Vous pourrez aller à l'hôpital ou bien acheter des médicaments dans une pharmacie de garde. Il sera possible aussi de rendre visite à un proche en situation de dépendance. Autre motif de dérogation, le travail. Pour ceux qui ont des horaires de nuit ou qui ne peuvent pas rentrer chez eux avant 21h, là aussi, les déplacements seront autorisés. Et puis, comme au printemps, vous pourrez promener votre animal de compagnie près de chez vous. À chaque fois, il faudra être muni de la fameuse attestation sur le même modèle que celle que l'on remplissait pendant le confinement, toujours à télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur. Important, si votre déplacement est lié à votre travail, il faudra un justificatif de l'entreprise ou bien une carte professionnelle en complément de l'attestation. Tout à l'heure, Jean Castex a précisé que cette attestation ne sera pas utile en cas de déplacement en train ou en avion.
Si vous avez votre train couchette, par exemple, puisque nous allons favoriser les trains couchettes, ou un avion après 21h, bien entendu, si vous êtes muni de votre billet, de votre justificatif de transport, vous pourrez aller le prendre et ça vaudra dérogation, si je puis dire, au couvre-feu.
Et il n'y a pas que le billet de train ou d'avion qui pourrait servir en quelque sorte de passe-droit. Les billets de cinéma, de théâtre, de spectacle pourraient vous permettre de circuler malgré le couvre-feu. Si une séance s'achève à 21h tout pile, par exemple, vous aurez le temps de regagner votre domicile.
On va suivre ça avec intérêt, on en reparlera à 19h. Merci Hélène Terzian. Alors qui pour contrôler le respect de ces couvre-feux? 12 000 policiers et gendarmes mobilisés dans les zones concernées. 135€ d'amende pour non-respect. Et au bout de 3 fois, ce sera 3 750€ et même le risque d'aller en prison pour 6 mois.
On rappelle que 20 millions de Français environ sont donc concernés par ces couvre-feux dans les 9 métropoles.
Et ceux qui n'habitent pas ces 9 métropoles se croyaient épargnés? Eh bien non.
Oui, le Premier ministre a en effet annoncé que même dans les régions où le virus circule moins activement, il y aurait également des restrictions.
Protocole sanitaire renforcé dans les restaurants, fêtes privées interdites, y compris les mariages, y compris les soirées étudiantes. Arthur Elmbaché, c'est donc le cas chez vous puisque vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Strasbourg.
Et à présent sur la terrasse du Public House, café à deux pattes du campus. Café au courant de l'actu du jour, puisque devant moi sur la grande ardoise, je lis 6 personnes maximum par table SVP. Consigne, je vérifie à peu près, oui, respecter tout autour de moi. Ici donc à Strasbourg, pas de couvre-feu, mais entre autres la fin des fêtes, notamment étudiantes. Ça fait soupirer Clara, 23 ans, assise devant une pinte de bière.
Je dis pas, le contexte de l'alcool c'est compliqué quand même, on est d'accord que on oublie de remettre son masque, on se colle un peu plus aux autres, on postillonne aussi, en fait. Mais après, quand on sait que c'est bondé dans les amphithéâtres ou autres et qu'au quotidien, enfin, les distances sont difficiles à respecter. Du coup, c'est vrai que ça paraît un peu aberrant d'accuser tout de suite tout ce qui est un peu loisir.
Est-ce que vous allez organiser des soirées chez vous ?
Mais en petit comité.
6 maximum, non.
On sera pas sur les 6 personnes, on va pas se mentir, mais on sera pas sur la vingtaine non plus ou quoi que ce soit, quoi.
De l'autre côté de la rue, il y a la bibliothèque universitaire et Florian qui prépare l'agrégation de mathématiques.
Si les gens peuvent éviter aussi de faire des soirées à 30 chez eux, ce serait une bonne chose.
Ça va faire des soirées révision dans les semaines qui viennent.
Ah bah de toute façon, nous on est en prépa agrég, donc c'est un peu ça tous les soirs. Donc, la pire mesure, ça serait que la bibliothèque ferme.
Commentaire d'un autre étudiant, si ces nouvelles restrictions pouvaient nous éviter, à nous, le couvre-feu, franchement, je dis oui.
Merci beaucoup Arthur Elbaché, correspondant d'Europe 1 en direct de Strasbourg. Cet après-midi, en tout cas, Jean Castex a reconnu l'impact économique, hein, évidemment, de ces nouvelles restrictions.
Oui, son ministre de l'économie a d'ailleurs annoncé de nouvelles aides, Élise Dangean.
Oui, d'abord pour soutenir la trésorerie des entreprises impactées, le gouvernement prolonge le dispositif de prêt garanti par l'État jusqu'au 30 juin 2021. Il aurait dû s'arrêter en fin d'année. Le fonds de solidarité, lui, est élargi aux entreprises de moins de 50 salariés, tous secteurs confondus, dès lors que leur perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50%. Elles pourront ainsi bénéficier de 1 500 € par mois pendant toute la durée du couvre-feu, 10 000 € si ces entreprises appartiennent au secteur de l'hôtellerie, la restauration, la culture ou encore l'événementiel, avec en prime le déplafonnement de l'aide qui ne pouvait jusqu'alors pas dépasser 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais aussi l'exonération totale jusqu'à la fin du couvre-feu de leur cotisation patronale. Bref, vous l'aurez compris, le gouvernement met le paquet pour ces secteurs et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, promet de ne pas les lâcher.
Je mesure parfaitement leur désarroi. Nous serons à leur côté et nous continuerons à être leur côté après l'annonce de ce couvre-feu.
Bercy a également demandé l'aide des banques, leur réclamant de la souplesse pour les remboursements de prêts. Un an supplémentaire pour les entreprises les plus en difficulté, c'était notamment l'une des demandes de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
Et dans toutes les entreprises, incitation bien sûr au télétravail, un nombre minimal de jours devrait être défini. Les employeurs doivent également prévoir d'étaler les horaires d'arrivée et de départ de leurs salariés.
Un coup de pouce également pour les soignants dont le Premier ministre a une nouvelle fois salué le rôle et qui manifestait justement aujourd'hui.
Oui, ils auront droit à une indemnité compensatrice pour tous ceux qui ne pourront pas prendre leur congé annuel parce qu'il y a trop de travail en ce moment. Une prime qui ira de 110 à 200 euros brut par jour. Le gouvernement a aussi décidé d'anticiper les sommes décidées pendant le Ségur de la Santé prévues pour mars prochain. La deuxième revalorisation de 93 euros promise aux soignants à l'hôpital et dans les EHPAD sera finalement versée avant la fin de l'année.
Et quand le calendrier se télescope, des perquisitions ont eu lieu ce matin au domicile et dans les bureaux du ministre de la Santé Olivier Véran et de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe.
Mais aussi du directeur général de la Santé Jérôme Salomon, de l'ancienne ministre Agnès Buzyn et de l'ex-porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.
On notera à ce propos l'hommage appuyé cet après-midi de Jean Castex à son ministre de la Santé. Écoutez-le.
Sur la confiance que j'accorde à M. Olivier Véran ici présent, sachez qu'elle est totale. Outre, bien entendu, ai-je besoin de le rappeler que sur le volet judiciaire que je ne connais pas, il bénéficie d'une totale présomption d'innocence. J'en atteste devant vous, il est toujours au front, il ne ménage ni son temps ni sa grande compétence, et c'est un atout pour notre pays, pour faire face aux événements sanitaires auxquels nous sommes confrontés.
Le soutien de Jean Castex donc à son ministre de la Santé, qui fait partie des 5 personnes perquisitionnées donc ce matin. Guillaume Bié, en fait, c'est la suite logique de l'information judiciaire qui avait été ouverte cet été sur la gestion de la crise par le gouvernement.
Oui, l'enquête a été confiée au juge d'instruction le 7 juillet et donc ces perquisitions interviennent 3 mois plus tard. C'est un délai classique dans l'absolu, si ce n'est que la situation sanitaire a évolué et qu'elles interviennent, ces perquisitions, en pleine annonce de nouvelles mesures face à la hausse des contaminations. Depuis ce matin, les gendarmes spécialisés de l'OCLAESP, l'Office central contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, ont investi les bureaux et les domiciles des ministres et responsables qui ont géré la crise au printemps, y compris de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui a réagi au micro de Nathalie Chevance.
Cette perquisition s'est déroulée dans les conditions normales, à la fois avec beaucoup de minutie de la part de ceux qui procédaient, dans une atmosphère polie et courtoise. La justice est saisie, elle travaille sereinement. Moi aussi.
Serein, Édouard Philippe, il fait partie des ex-membres du gouvernement visés par des plaintes déposées devant la Cour de justice de la République pendant le confinement au printemps. Le but des perquisitions aujourd'hui, c'était de saisir des courriels, des dossiers, des documents, tout ce qui pourrait indiquer que des informations n'auraient pas été prises en compte ou bien que des décisions auraient été prises en dépit de certaines recommandations. Bref, est-ce qu'il y a eu des actes intentionnel en toute connaissance de cause, auquel cas ce serait un délit qui entraînerait un procès pour les anciens ministres.
Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h12, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. On s'intéresse maintenant à Michel Fourniret. De retour donc sur les lieux de la disparition d'Estelle Mouzin.
À Guermantes, en Seine-et-Marne, le tueur en série est accusé, vous le savez, d'avoir kidnappé la petite fille en 2003. Estelle Mouzin avait alors 9 ans. Il a reconnu d'ailleurs l'avoir séquestrée avant de la tuer. Son ex-compagne, Monique Olivier, a également été conduite aujourd'hui sur les lieux. Vous vous trouvez sur place, Gladys Laffitte.
Oui, la reconstitution doit démarrer dans les prochaines minutes à l'heure à laquelle Estelle Mouzin a quitté l'école vers 18h ce 9 janvier 2003. Tout est bouclé dans ce quartier pavillonnaire du petit village tranquille de Guermantes. La plupart des habitants sont restés enfermés chez eux. De nombreux policiers se sont déplacés pour sécuriser les lieux, depuis l'école où l'on entendait les enfants encore jouer cet après-midi jusqu'à la maison d'Estelle Mouzin, en passant par devant la boulangerie que l'on aperçoit derrière le cortège des forces de l'ordre, là où elle a été vue la dernière fois. L'objectif pour la juge d'instruction, c'est de refaire ce trajet avec Michel Fourniret et son ex-épouse, Monique Olivier, maître Richard Delgenès et son avocat.
On sait que Michel Fourniret parle très peu, et je pense que dans la tête de la juge d'instruction, c'est de les mettre ensemble. Si Michel Fourniret veut faire interagir Monique Olivier sur tel et tel élément, que Monique Olivier puisse y répondre. Ce qu'attendent le juge d'instruction et les parties civiles, surtout, c'est d'essayer de savoir comment les faits se sont déroulés, déjà, concrètement. Savoir où est morte Estelle Mouzin et à partir de là, savoir quel endroit il a pu véhiculer le corps, si c'est le cas, se débarrasser du corps, si c'est le cas, plutôt. Voilà, toutes ces questions-là.
Une étape judiciaire de plus, donc, qui a pour objectif, évidemment, pour les parties civiles et la famille d'Estelle Mouzin, de retrouver le corps de la fillette disparue il y a maintenant 17 ans.
Gladys Laffitte à Guermantes pour Europe 1.
Emmanuel Macron promet de ne pas laisser tomber les pêcheurs.
À Bruxelles, le président français prévient, il ne saurait être les sacrifiés du Brexit, alors que les difficiles négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sont au cœur d'un nouveau sommet européen.
En France, c'est une demande qui émanait de la Convention citoyenne sur le climat. Le gouvernement a finalement tranché en faveur d'un malus automobile pour les véhicules les plus lourds.
Alors Aurélien Fleurot, concrètement, ça va concerner quel véhicule ?
Alors au final, assez peu de voitures, en tout cas pas les meilleures ventes des constructeurs français comme les 2008 et 3008 de Peugeot, la Captur ou le Kadjar de Renault ou encore le C5 Aircross de Citroën. Pour atteindre 1,8 tonne, il faut plutôt se tourner vers certains des plus gros modèles des constructeurs allemands comme Audi à partir du modèle Q5 ou encore les BMW X4 et X5. Une taxation qui sera de 10 euros par kilo au-delà du seuil, mais qui ne va pas concerner les voitures électriques et leurs batteries plus lourdes qu'un moteur thermique. Le gouvernement prévoit aussi des ajustements pour les familles nombreuses et pour certains modèles hybrides. Cet amendement est accueilli comme une bonne nouvelle par l'ONG Respire. C'est un arbitrage gouvernemental historique, se réjouit même WWF, qui regrette cependant que beaucoup de voitures ne seront pas concernées. L'association plaidait plutôt pour un malus progressif à partir d'1,3 tonne. En revanche, même si elle peut apparaître symbolique dans un premier temps, eh bien cette mesure est très critiquée par la filière automobile. Il n'y aura pas d'avenir en France avec des hausses de taxes, a par exemple regretté Luc Châtel, président de la plateforme automobile qui représente toutes les entreprises du secteur.
Aurélien Fleurot du service économie d'Europe 1.
Merci, à tout à l'heure Isabelle pour le rappel des titres à 18h30 et le journal, le grand journal à 19h. La météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce, eh bien, du temps gris mais c'est bientôt fini.
Oui, c'est pas fou hein, demain, on n'est pas sur une super journée. Je vais quand même vous donner un peu plus de détails parce que si vous nous écoutez dans le nord-est, c'est là que le temps sera le moins beau, en Alsace, en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne. Sur la région Rhône-Alpes, le ciel est très couvert, très gris demain avec des averses tout au long de la journée. Dans le sud, au bord de la Méditerranée, il fait beau, mais le vent souffle toujours, Mistral et Tramontane jusqu'à 70 km/h. C'est le long de la façade atlantique demain que le temps sera le plus agréable, de la Normandie au Pays Basque. Le soleil va bien sortir et vous le disiez, Julien, c'est parti à partir de samedi pour aller jusqu'en milieu de semaine prochaine. Vraiment une belle période ensoleillée.
Et c'est tant mieux.
Les températures, elles sont encore froides demain avec 0 à 12 degrés de Digne-les-Bains à Nice. Dans l'après-midi, 9 à 19. 9 pour Saint-Étienne, 10 à Clermont-Ferrand, 12 à Strasbourg, 14 à Cherbourg, Lyon et Paris et 19 à Montpellier.
Merci Anissa.